Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Nations Unies. Escale.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, Christina Silvero au micro. Cette semaine dans Escale, nous recevons Yann Thomas, artiste observateur de l'ONU, qui cherche à canaliser l'énergie des personnes pour créer des œuvres lumière en faveur des objectifs onusiens. Lors de la conférence sur le climat à Paris en 2015, il avait transformé la Tour Eiffel en une immense antenne énergétique Human Energy pour affirmer l'état d'urgence climatique en comptabilisant l'énergie calorique produite par 75 millions de sportifs dans le monde et les tweets de la conférence. En 2019, il cherche à capter l'énergie générée par les marathoniens de New York pour les mettre au service des objectifs du développement durable. Explications et coups de projecteur sur le parcours de Yann Thomas.
Dès que j'étais enfant, j'ai eu ce désir de rejoindre cette organisation parce qu'elle occupait pour moi différents stades qui sont non seulement le stade opérationnel qu'on connaît bien et qui est déterminant dans tous les continents de ce monde, mais il y avait également le stade lié aux imaginaires que cette organisation peut inspirer, et notamment vis-à-vis des pays du Sud. C'est cet imaginaire-là qui m'a vraiment attiré en tant qu'enfant.
Ça veut dire quoi cet imaginaire, et notamment envers les pays du Sud pour vous ?
Pour moi, c'est la symbolique que représente l'ONU vis-à-vis des pays les plus désemparés ou les plus problématiques aujourd'hui, en contrepoint évidemment de ceux qui ont toutes les manettes économiques entre leurs mains, notamment même celui dont je proviens, qui est la France. Mais l'idée, c'est de réussir à créer ce lien permanent, donc ce qu'a réussi l'ONU, mais aussi de sublimer les points communs et de créer aussi par là même des innovations de relations. Et donc je trouve que la façon dont Romain Gary la dépeint dans L'homme à la colombe, par exemple, est assez remarquable parce que on a autant l'espoir qui s'y trouve dans ce livre que le désespoir aussi de voir à certains moments, évidemment, le théâtre du monde qui s'exprime aussi dans ses blocages. Et donc l'ONU, comme cet immense espoir et qui peut devenir l'espace du tout monde autant que l'espace des possibles. Et c'est ça que, en tant qu'artiste, je recherche, c'est un espace infini de possibilités pour innover, créer et envisager ma relation aux autres.
Alors justement, votre œuvre, votre travail sert aussi de sensibilisation. Je pense notamment au projet Human Energy en marge donc de la COP21 à Paris pour les négociations sur le climat. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer, déjà décrire le projet et quelle était l'idée, pourquoi Human Energy ?
Human Energy a émergé directement après une rencontre qui était celle de mon corps avec le corps des autres dans le cadre de la Climate March. Donc on s'est retrouvé à près d'un million de personnes en septembre 2014, le dimanche d'avant l'Assemblée Générale, à défiler ensemble. Et donc les choses ne tiennent vraiment qu'à un fil. Je reçois un SMS de la compagnie qui devait me ramener en France et qui me dit que l'avion était annulé. Et donc là, je me suis dit, mais il faut que je passe une semaine, parce que je m'étais rendu compte de l'impact énorme, de cette mobilisation énorme. Il faut que je passe une semaine à l'Assemblée Générale, toute la semaine, je vienne vraiment le plus tôt possible chaque jour et que j'accumule les témoignages, que je sache assister à tout ça, que je les dessine à l'époque pour me charger de tout ça, et puis que je fasse émerger un projet. De la même manière que l'ONU m'avait inspiré Dynamo Fukushima en 2011, où j'ai fait pédaler 24 000 personnes pour les enfants de Fukushima. Donc l'idée, à cette époque, pour Dynamo Fukushima, j'avais créé une économie qui était une sorte de possibilité comme ça, de financer des programmes dédiés aux enfants de Fukushima. Et donc il y avait un impact de la mobilisation de ces personnes au Grand Palais pour le local. Et donc j'ai eu envie de créer quelque chose de similaire, mais surdimensionné, puisque le monde entier se retrouvait donc à Paris pour la COP21. Et donc ça a été comme ça la possibilité de revenir à Paris avec ce projet, d'investir la Tour Eiffel. J'ai obtenu la Tour Eiffel après beaucoup de négociations. J'ai eu l'agrément de l'État français, de la mairie de Paris, du ministère de l'Environnement, de l'ONU. Et puis, il a fallu me trouver ensuite le financement. Et là, je l'ai trouvé grâce à l'ANRDC qui m'a mis en relation avec des donateurs à même de financer cette œuvre. Et ce qui est formidable, c'est que cette mobilisation a eu deux liens très importants avec la COP21. Le premier, c'est les 80 millions de runners qui ont été connectés à la Tour Eiffel pendant toute la semaine des négociations via une application. Donc on avait en permanence des gens qui couraient pour la planète. Donc ça, c'était vraiment formidable. Hein. Et cette application Runtastic, là, qui m'a vraiment...
C'est un logiciel qui s'accroche à un téléphone aussi.
C'est l'application Runtastic que beaucoup de runners ont. Et c'était formidable parce que tout de suite, j'avais l'énergie des corps qui s'exprimait sur la Tour Eiffel. Dès qu'ils acceptaient un SMS comme quoi, voilà, vous courez pour la planète et pour l'œuvre Human Energy, est-ce que vous acceptez de donner vos calories ? Voilà, donc les calories étaient immédiatement amenées à la Tour Eiffel et implémentées au premier étage. Et en parallèle avec des mathématiciens, nous avions réussi à récupérer tous les mots-clés de la COP21 grâce aux tweets des négociateurs, qui étaient donc en temps réel retransmis. Et c'est comme ça que le mot 1.5 degrees est arrivé au premier étage de la Tour Eiffel dès le lundi.
C'était l'expression la plus reprise.
C'est ça. Et donc, ça a fait la couverture du New York Times dès le mardi. C'est revenu dans les mains des négociateurs immédiatement. Et je pense que ça a dû avoir une incidence, en tout cas, puisque l'objectif, c'était plutôt 2.5, dans l'augmentation des objectifs. Et puis donc, la cime de la Tour Eiffel était investie par 25 faisceaux de 400 mètres de longue portée qui touchaient toutes les habitations. Contrairement à aujourd'hui où la Tour Eiffel a un faisceau simple qui tourne, là, les faisceaux arrivaient sur les maisons. Et ça, c'était formidable parce qu'il y avait cette connexion où le symbole même de la COP21, à l'image de la tour de Nikola Tesla de Long Island, eh bien, était tout d'un coup cette antenne qui allait être en connexion directe avec les personnes. Voilà, donc c'est un peu cette formidable mobilisation qui m'a inspiré le projet qui aujourd'hui est en train de mûrir pour 2019 avec le marathon de New York.
Alors justement, vous allez maintenant au-delà du climat et vous vous tournez vers le développement durable.
Absolument. Le développement durable, c'est donc cette formidable mobilisation des 17 objectifs du développement durable où on se rend compte que les enjeux ne sont donc plus uniquement liés à l'environnement, mais sont liés à toutes les facettes de notre vie et que aujourd'hui, tous ces problèmes créent des guerres, empêchent le développement de l'éducation, mettent en perspective aussi la nécessité de penser différemment l'habitation. Enfin, tout ce qui finalement constitue la vie sur cette planète est réenvisagé à travers ces SDGs. Et je crois que l'ONU a réussi très rapidement au moment de la COP21 à accélérer ce concept qui aujourd'hui irrigue beaucoup d'entreprises privées, beaucoup d'entreprises d'État, beaucoup de pays également, mais aussi les ONG. Beaucoup d'ONG aujourd'hui sont liées à cette direction. Donc de mon côté, en tant qu'universitaire, j'ai contribué à la création de Sorbonne Développement Durable, qui est donc une entité qui fédère une centaine de chercheurs dans les sciences humaines, sociales et juridiques. Il y a également une liaison avec les scientifiques à travers l'IHEST, qui est l'Institut des hautes études en sciences et technologies, qui lui se mobilise énormément dans ce domaine-là. Donc en tout cas, c'était aussi me rendre compte que aujourd'hui l'art, en tout cas l'art tel que je le mène, ne se joue plus uniquement dans le milieu de l'art avec les personnes qui vont dans les musées ou dans les galeries, mais c'est surtout qu'il se joue avec la société tout entière, et donc plus du tout dans le marché de l'art uniquement, mais surtout au contact de tout le monde. C'est un média. Et d'ailleurs, l'ONU m'a demandé de faire jouer ce média au moment de la signature et la concrétisation de la COP21 qui a eu lieu en avril 2016. Et c'est à ce titre-là, donc là, en tant qu'artiste observateur et puis en tant que médiateur, que je me suis retrouvé comme un média qui sublimait aussi cette idée.
Vous dessignez tous les moments forts, les moments de signature, les interventions à l'Assemblée Générale.
Absolument, tous les moments forts. Surtout, l'idée, c'était de créer une convergence entre les corps et l'esprit. Donc, une forme de relation à l'image de la pensée de Schusterman sur la soma esthétique, le rapport entre corps et esprit. Et donc, ces dessins reflètent ça. Et aujourd'hui, je développe les dessins holistiques. Ce sont des dessins qui captent directement des situations et des traversées de sens qui donc sont liés non seulement à des événements, mais aussi à la façon dont ces événements s'articulent dans l'espace énergétique. Et je mets ça en lumière pour inspirer les gens.
En lumière ?
Oui.
Littéralement.
Absolument. Le dessin comme mise en lumière.
Vous mettez en œuvre également un projet de transmission Morse en lumière,
oui,
lié au développement durable.
Absolument. À l'échelle de tout un pays, la Roumanie, en avril et mai prochain, au bénéfice de cette manifestation qui est le France-Roumanie, c'est l'idée de créer en tout cas une convergence entre les personnes. Et donc, je vais aller au contact de 4 villes et des centaines de familles dans chaque ville vont émettre en morse-lumière des mots liés à l'environnement. Ça fera l'objet d'une œuvre collective comme ça qui sera réalisée à l'échelle du pays.
C'est une façon de leur permettre d'exprimer leur vision.
Absolument, ce sont des mots qui habitent ces personnes. Ce sont des mots qui vont aussi être choisis par elles, donc avec leur langue, avec leur façon aussi de s'exprimer, leur culture et leur histoire. Et c'est une façon de lier toutes ces personnes entre elles, puisque je vais rester en contact avec elles après, et qu'à l'image de tout ce que je fais habituellement, il y a cette convergence d'énergie entre les êtres qui doit sublimer un acte collectif.
Et concrètement, il y a un petit appareil qu'ils mettent dans leurs fenêtres et qui illumine certains mots selon
Absolument.
Ceux qu'ils choisissent.
Absolument.
Et qui sont visibles de l'extérieur.
Oui, c'est un module Morse, un module Morse-Lumière, hein, qui compose en code Scott, donc qui est le Morse-Lumière, des mots. Ils ne sont pas obligés de le mettre tout près de leur fenêtre, c'est la salle ou leur appartement qui fait caisse de résonance. Je vais appliquer la même chose d'ailleurs au niveau de la Méditerranée en juin, puisque ça sera l'idée aussi de réunir les 10 pays qui composent le dialogue 5+5 et qui vont donc émettre chacun des mots de solidarité, de rayonnement, de relation pour transformer les situations en cours.
Le prochain volet, concrètement, c'est le marathon. Alors, à quoi peut-on s'attendre ?
Alors, pour l'année 2019, c'est ce qu'on est en train de préparer. L'idée aussi, rien ne peut se produire dans toutes ces opérations si tout cela n'a pas un sens pour réparer, améliorer, réunir les énergies, transformer. Et donc, de la transition à la transformation, pour moi, c'est la volonté d'affirmer aussi un statement, un état d'être. Vous savez que j'ai donc récupéré et réactivé une entreprise qui était une ancienne compagnie de production de distribution d'électricité. Elle a périclité en 1946 et j'ai racheté son nom et la marque pour la transformer en compagnie d'énergie artistique, de production d'énergie artistique. Et pour moi, c'est l'incarnation de la mutation totale. C'est-à-dire qu'il faut faire comprendre aux entreprises aujourd'hui qu'on doit transformer l'énergie qui est à notre disposition en une autre énergie plus propice à la planète. Et donc, cette énergie artistique que je produis et je distribue aujourd'hui, pour moi, elle pourrait aussi avoir une valeur monétaire. Et c'est ce qu'on a essayé de mettre en place à travers Human Energy, à un moment donné. En tout cas, c'était le concept. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut aller beaucoup plus loin et qu'il faut montrer, un peu comme les bitcoins existent, que cette énergie artistique, elle a un équivalent monétaire possible à partir du moment où les partenaires qui ont l'argent en main et qui financent des justes causes, sont d'accord pour que cette énergie artistique qui va émaner des corps se transforme en énergie monétaire. Et donc, c'est l'idée d'équivalence et d'atteindre certains paliers d'énergie artistique qui devraient amener la convergence de financement vers des causes qui sont liées à l'environnement, enfin au développement durable surtout, et donc aussi pour améliorer la situation.
Et concrètement, par rapport au marathon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des marathoniens qui courent et qui génèrent une certaine énergie, un peu comme ce qui avait été fait à Fukushima et Human Energy ?
Exactement. Alors, pour la petite histoire, mais je pense que c'est très important de le lire ici parce que c'est quelque chose de fondamental, il me semble. Je vais vous lire la formule que nous avons établie avec un mathématicien, Antoine Mandel, la formule de l'énergie artistique pour l'instant, et qui serait celle de Human Energy et peut-être celle de Run for the Planet. Donc elle est inspirée de la formule d'Einstein pour la masse d'un corps en mouvement. Donc la vitesse de l'énergie artistique est égale à la racine carrée du volume des corps mis en mouvement multiplié, en première approximation par le rapport de cette vitesse à celle de la lumière. Lorsque la vitesse des corps approche celle de la lumière, la vitesse de l'énergie artistique devient infinie. Alors au-delà de cette formule qui est très mathématique et qui finalement montre un aspect presque physique de cette mobilisation, l'idée en effet c'est que les runners, tous les gens qui vont courir pour le marathon, vont devenir de formidables bobines d'énergie électrique et artistique, tout autant que finalement irriguer des situations dont ils n'ont pas connaissance mais qui seront en liaison directe avec l'investissement de l'ONU. Et donc mon engagement c'est celui de la convergence de cette énergie humaine, locale et en même temps qui va être globale puisqu'elle mobilise 55 000 personnes du monde entier et la mobilisation des forces de l'ONU sur un sujet donné. Et donc c'est ça qu'on va faire converger.
Et concrètement ça passe par quoi ? Quel est le vecteur, le moyen ? Comment est-ce que leur énergie se transforme ? Comment est-ce qu'elle est vouée à autre chose que de courir ?
Alors via les calories qu'on va comptabiliser, via leur engagement aussi à travers l'organisation du marathon dans cet objectif-là.
Et toujours par un logiciel, ça se passe comment ?
Voilà, une application. Et en même temps, il y aura une œuvre lumière qui sera réalisée au sein même du lieu d'arrivée du marathon. Et puis, il y aura des lumières que porteront ces coureurs qui seront donc en même temps des sortes de balises. Et donc, pour moi, c'est la façon de connecter toutes ces personnes. Ils seront des volontaires pour cette cause du développement durable. Et tout cela convergera vers les efforts que fait l'ONU aujourd'hui dans cette direction. Donc on va définir aussi évidemment un objectif précis et ça sera peut-être l'objet d'une nouvelle rencontre ensemble.
Et c'est ainsi que se referme ce magazine Escale avec Yann Thomas. Escale, un magazine hebdomadaire de Nu Info, présenté cette semaine par Christina Silvero avec la collaboration de Carlos Macias. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence.